RMC Gold, 14h-15h.
Paroles et musique.
Paroles et musique.
Fred Hermel.
Bonjour, c'est dimanche, une heure ensemble sur RMC Gold, avec des mots et des notes, des paroles et de la musique.
Le temps est bon.
Aujourd'hui, nous allons être heureux avec Karen Anne. Bonjour Karen Anne.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Dans plein de vos chansons, il y a le mot bonheur qui revient, donc je vais poser la question qui tue. Qu'est-ce que le bonheur pour Karen Anne?
Alors, le bonheur, je dirais que c'est quelque chose, j'ai toujours aimé cette phrase qui parle de la misère, qui dit « Misery is a butterfly ». Je dirais que le bonheur aussi est un papillon. Et en fait, voilà, il vient se poser comme ça sur notre épaule, il tombe sur nous, il faut le saisir, il faut l'accepter. Après, il y a la joie, c'est encore autre chose, et ça, on peut le provoquer. Bien évidemment, on connaît toute la philosophie qui est autour de ça. Mais je dirais que pour quelqu'un qui est très attaché à la mélancolie, qui connaît la zone de confort mélancolique, surtout dans l'écriture, comme tout auteur, le bonheur, c'est quelque chose de solaire. Une fois qu'on le touche, on a envie de vraiment optimiser les moments qu'on a, l'intimité qu'on a avec le bonheur.
Eh bien, ce bonheur, on va le chercher pendant une heure, cher Karen Anne. On va voyager ensemble dans votre univers musical, mais aussi parler de votre vie et de votre actualité. Alors, Karen Anne, c'est...
Tombe les nuits à la lueur de bougies qui fondent et que la lumière... Les heures que s'écoulent à jamais, les secondes, que la lumière soit.
C'est aussi.
Tide will rise and fall along the bay. And I'm not going anywhere. I'm not going anywhere.
C'est bien sûr.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos.
Mais pour moi, c'est avant tout.
Je pourrais bien brûler les preuves, trier les pages de mon passé, prendre un bassin ou même un fleuve pour abonder le peu que j'ai. Je pourrais bien brouiller les pistes, changer 100 000 fois de visage, rayer mon nom de toutes les listes et m'effacer des paysages.
Ah, j'ai des frissons là, Karen Anne. Ça me le fait à chaque fois. Alors que Neige, c'est vraiment, c'est l'une des chansons les plus connues de votre répertoire. Elle a profondément marqué votre carrière, mais je pense qu'elle plaît énormément parce qu'elle symbolise que votre œuvre, la mélancolie, cet amour de la mélancolie.
Oui, parce qu'en fait, la mélancolie, elle existe. Justement, elle devient une zone de confort, surtout pour les gens qui écrivent. Parce qu'elle n'est pas du tout détachée du bonheur. On parlait du bonheur tout à l'heure. Elle n'est pas du tout détachée des moments phares de nos vies et de moments... Parce qu'en fait, chaque instant qui passe, finalement, il pourrait nous manquer si on ne l'a pas saisi ou si on l'a saisi ou on décide notamment de l'immortaliser dans l'écriture, dans la composition. Donc, c'est forcément un outil. Mais je pense que, notamment dans Que neige, c'est marrant que on en parle parce que ça raconte déjà mon amour pour Paris. Parce que je raconte mes nuits parisiennes dedans, ou ma vie parisienne dedans, alors que je l'ai écrite lorsque j'étais à New York pour un projet et je suis restée assez longtemps et Paris me manquait.
Vous étiez dans la mélancolie, dans la nostalgie de Paris.
De Paris, alors que là je suis en plein dedans et on parle d'il y a plus de 20 ans quand j'ai écrit cette chanson. Et donc cet attachement à cette ville qui est liée pour moi à l'écriture existait déjà à l'époque. Et c'est vrai qu'à travers Que neige, c'est, est-ce qu'on peut parler de, du bonheur en parlant de Que neige ? Est-ce qu'on arrive à le saisir ? Est-ce qu'on arrive à le tenir ? Est-ce qu'il y a une forme physique justement à ça ?
Que il neige est,
voilà, ah oui, exactement. C'est, est-ce qu'il y a une forme physique à ce qu'on est, à ce qu'on a obtenu, ce qu'on retient et ce qu'on porte en nous ? Est-ce que c'est forcément lié à une certaine forme de... J'aime bien toujours dire que on donne le temps est un peu une syntaxe et on en fait ce qu'on veut, mais c'est vrai que dans Que neige, cet aspect par rapport au temps qui passe et par rapport à la distance qu'on a de quelque chose de très, très ancré et de très concret, notamment ici la mélancolie de Paris alors qu'on est ailleurs, elle est justement liée à cette lumière, cette fameuse lumière qu'on associe à la mélancolie.
Kieronan, vous le savez, il y a des jours comme ça.
Regarde la mer près du bateau, juste derrière, un peu plus haut. Sur le fil d'argent de l'horizon, ces deux amants que nous étions. Ne vois-tu pas venir les jours heureux? Ils sont bien là et dire que l'on vivait sans eux. Jusque-là, regarde le ciel près de la dune, cette petite lumière, je n'en vois qu'une dans le néon qui brille encore depuis le temps qu'on la cherche alors. Vois-tu pas venir les jours heureux? Ils sont bien là et dire que l'on vivait sans eux. Jusque-là, une promesse qui t'attendait, mais rien ne presse, car désormais ne vois-tu pas venir les jours heureux. Ils sont bien là et dire que l'on vivait sans eux. Jusque-là,
les jours heureux, Kieronan, c'est dimanche et vous êtes sur RMC Gold.
RMC Gold.
Paroles et musique.
Quelle belle chanson là aussi, les jours heureux. Et puis vous avez aussi enregistré cette chanson avec le Quatuor de Bussy, vous avez fait un concert avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne. J'ai quand même le sentiment, plus qu'un sentiment, c'est une observation je vais dire, que votre musique et vos mots fonctionnent très bien avec la musique classique.
En fait, je pars de l'idée qu'une chanson devrait fonctionner seule avec une guitare ou un piano, un instrument, et qu'après, c'est un peu un dessin. Et en fonction de nos envies et de nos désirs sonores du moment, on peut après l'habiller avec un groupe de rock, avec un trio de jazz, avec un orchestre symphonique, avec un quatuor à cordes. Parce que mon métier, je le dis toujours, il peut se passer dans une pièce avec une guitare ou un piano, parce que c'est un dialogue entre les mots, la rime, la syntaxe, l'harmonie, la progression de l'harmonie, les accords, les majeurs, les mineurs. En fait, c'est tout un langage que j'adore, le songwriting. C'est un métier de raconteuse. J'aime raconter des histoires par rapport à un modèle architectural de chanson qui est un peu l'ancienne folk song, et raconter dedans.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
La folk song, c'est couplet, refrain, pont, refrain. Tout le monde l'a fait. Le rock, la pop, le hip-hop. Enfin, vraiment, c'est sans fin. C'est comme quand on dit qu'une partition de jazz, elle est très, très écrite, mais on est très très libre dedans. Et donc voilà, c'est un modèle de chanson, c'est une architecture, et dedans c'est sans fin. Et pour moi, ça a toujours été, c'était ce que pouvait faire Bourvil, comme pouvait faire Dylan et Springsteen et Françoise Hardy. En fait, c'est sans fin, la chanson. Et moi, j'aime cet exercice, ça me comble d'écrire une belle chanson, en tout cas celle qui est belle pour la journée pour moi. Et j'aime mon métier. Mais une fois que la chanson est écrite et qu'elle peut exister avec un piano et une guitare, on peut lui donner des couleurs et des mélanges de couleurs et des fréquences sans fin. On peut, d'un point de vue sonore, transformer une pièce, qu'elle soit vide ou qu'il y ait juste un seul instrument ou qu'il y ait tout un orchestre, transformer cette pièce et les fréquences de cette pièce sur une bande sonore, ça nécessite plein d'étapes. Ça nécessite le choix des instruments, les textures, les arrangements, la tessiture, et ensuite les micros, le placement de micros, les compresseurs, les préamplis. Ça nécessite une post-production.
Et un travail en commun, c'est-à-dire collectif, c'est ça.
Collectif.
Vous avez commencé tout seul avec votre guitare, votre piano chez vous.
Voilà, la sublime solitude, elle est seule, elle est dans une pièce.
On va l'écouter bien sûr.
Voilà, elle est là, elle est. C'est le métier d'auteur, de compositeur, seul. Mais après, tous les éléments qui rentrent en jeu sont vraiment éternel et sans fin. Et c'est aussi intemporel. Et c'est ça qui est génial dans une chanson, c'est qu'on peut lui donner plein de visages, plein d'habits. Et c'est pour ça que j'aime autant cet exercice, parce qu'on peut le lundi travailler avec un orchestre, le mardi avec un trio, le mercredi seul. Hier, je jouais un concert où j'étais seule avec une guitare acoustique. Et donc, j'ai transformé parfois des chansons très, très électriques à moi sur l'acoustique. Et je peux aussi faire le contraire, prendre quelque chose de très très acoustique et lui donner une forme très très électro. Et c'est ça qui est génial avec ce métier de songwriting, c'est qu'on est à la base raconteur, on est narrateur d'une histoire, de quelque chose. On rassemble un témoignage qui doit être personnel, l'émotion doit être vécue, on raconte quelque chose, mais après on peut faire des couches et des couches d'informations à travers plein de textures et d'éléments. Et je dirais que c'est un peu entre le dessin de base, l'illustration de base et toutes les possibilités qu'il y a avec...
Après,
puis même pour l'artiste,
ça, ouais.
C'est-à-dire que les couleurs et les peintures et les textures et les matériaux qu'il utilise ont été créés par des choses, mais après, par des choses organiques. Et après, il peut les mélanger. Et voilà, c'est comme ça dans la musique.
Faut-il avoir souffert pour créer ? Parce que c'est Suran qui disait « Et bavardage, toute conversation avec quelqu'un qui n'a pas souffert. »
Une fois de plus, la souffrance est subjective. C'est-à-dire que la souffrance pour quelqu'un qui est né dans la famine ou qui est né entouré de sang et de feu et de résilience et de survie n'est pas la même que celui qui est né dans un confort inouï. Et peut-être que celui qui est né dans un confort inouï, il est, finalement, quand on regarde son degré de souffrance, elle est incomparable, enfin elle est très très haute. Mmh. C'est très étrange la souffrance et elle est affreuse parce qu'il y a encore des gens qui souffrent. En tout cas, il faut avoir vécu pour écrire et il faut avoir je pense qu'un cœur brisé suffit parfois. On n'est pas obligé
d'avoir toute une vie terrible.
Voilà.
Un épisode...
Mais par contre, on devient plus exigeant avec le temps. Donc, quand on a 20 ans et on crée, un cœur brisé suffit, ou un témoignage suffit, ou être raconteur d'une émotion qui nous a durci suffit. Alors que toute une vie, ça demande une exigence parce qu'en fait on est beaucoup plus dur avec soi pour avoir un résultat précis et qui raconte ce qu'on a envie de dire. Donc c'est un paradoxe. J'aime pas appeler ça dire qu'il faut avoir souffert pour écrire, il faut avoir observé et il faut être précis dans l'émotion et il faut être sincère. En fait, je pense que l'outil le plus important pour être auteur et pour être compositeur, c'est la vérité. Et une fois qu'on arrive à raconter la vérité, c'est là qu'on touche à quelque chose qui est une identité, en l'occurrence dans mon cas, sonore.
Vous êtes sur RMC Gold et je vous propose une petite balade dans Paris. Amour, Kéronan, qu'est-ce qu'on est bien sur RMC Gold.
Le temps est bon.
RMC Gold.
Paroles et musique.
Ça y est, Kéronan, il est là, le nouvel album. Oui, vous voyez, je viens de me rendre compte que j'ai fait un lapsus en écrivant les questions. J'ai écrit « Il est là, le nouvel amour ».
Ah,
c'est,
bah,
un lapsus littéraire, oh, c'est brillant.
Bien voilà. Sûr, Paris, chaque album, c'est un nouvel album.
Ben voilà, bah, donc oui. C'est... Parce que ça faisait 6 ans, c'est long quand même, non?
En fait, 6 ans depuis l'album studio d'Original, mais j'ai fait quand même l'album avec le Quatuor Debussy, et on a tourné quand même 7 ans, et puis j'avais d'autres projets parallèles. J'avais mon opéra Red Waters à l'Opéra de Rennes, et puis le projet de théâtre avec Irène Jacob sur la poésie. En fait, j'ai pas fait d'album studio, parce que même l'album avec le Quatuor Debussy, c'était un album studio, mais c'était un peu en rétrospectif. C'est-à-dire que j'ai fait des chansons que j'avais jamais enregistrées, mais qui avaient déjà été enregistrées par d'autres de mon répertoire, justement, que j'avais écrit. Mais c'est vrai que depuis 2019, l'album bleu, l'album studio solo, c'était...
100% original, c'est...
Voilà, ça fait six ans. Mais un album, il faut l'écrire, il faut le réaliser, il faut l'arranger, il faut le produire. Et dans mon cas, il faut aussi produire, parce que c'est mon label, c'est toute ma structure. Donc, il faut... c'est une fermentation. Voilà, j'ai mis du temps à fermenter pour, avant que...
6 ans, est-ce que ça fait déjà un bon whisky, non? Oui, oui, en tout cas.
Passé. Non,
un album, c'est bien. Oui, bon, vous avez ton tournée, hein, faut l'annoncer quand même, partout en France.
Oui.
À partir du 19 mars 2026, avec une date importante, La Cigale à Paris, le 26 mai 2026. J'y serai, hein, je vous promets, hein,
ah,
si Dieu le veut.
Bah oui.
Comment pourriez-vous décrire ce nouvel album? Qu'est-ce que... Alors, je pense que les fans historiques de Kerenan vont s'y retrouver. Mais pour attirer un nouveau public, qu'est-ce qu'on pourrait décrire de votre nouvel album qui va ouvrir un petit peu vers d'autres?
Alors, je dirais que maintenant, quand je le regarde avec le recul, parce que pendant qu'on est dans le processus de création d'un album, on ne peut pas avoir cette observation. Mais je dirais que s'il y a 2 ans, je devais imaginer comment j'ai envie que mon prochain album sonne, ça serait exactement comme ça. Ça veut dire qu'il y a justement cet amour pour le songwriting, pour l'écriture de chansons, pour la folk et pour la folk song, mais qu'il y a quand même les influences hip-hop et toute cette exigence dans le son de basse, batterie et tout ce qui est, et même très très rock, parce qu'il y a des titres assez ambitieux au niveau des arrangements de cordes et on peut voyager assez loin aussi dans tout cet aspect romantique des chansons. Je dirais que c'est un album qui n'est pas parisien, même s'il s'appelle Paris Amour. Il y a beaucoup d'éléments d'eau, on en retrouve beaucoup la mer, on retrouve beaucoup l'horizon et sans fin ce bleu qui existait déjà dans mon album précédent. Et je dirais que c'est un album solaire, qu'il est très solaire. Et que même dans les moments de mélancolie, même quand on a envie d'être proche, c'est-à-dire que je raconte très proche de l'oreille, avec des arrangements ambitieux par moment, mais en tout cas, j'aime pas le mot ambitieux parce que j'ai toujours été très proche des grands arrangements.
C'est-à-dire vous murmurez ça à l'oreille des gens ?
Je murmure moins qu'avant, je chante vraiment, mais je raconte à l'oreille. Ouais. Je raconte à l'oreille d'une manière très figée des choses justement... ça parle beaucoup d'amour, bien évidemment.
Mais cette chanson Paris Amour, elle me plaît beaucoup. Vous dites Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé, mais Paris Amour, Paris toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, tu m'as périmé. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est vrai que c'est dur de dire Paris, tu m'as périmé, mais ça peut l'être parce que parfois on est fatigué par un environnement auquel on se sent très très proche. Enfin, on se sent très très bien. Paris, c'est mon lieu, c'est mon exil, Paris. Je ne suis pas née à Paris, je suis arrivée à Paris. C'est mon port d'attache, c'est devenu. Elle m'a adoptée, je l'ai adoptée. On surveille l'une et l'autre, on est là, il y a des capsules de temps. Paris, elle m'a apporté toutes les merveilles que j'ai eues, mais aussi parfois des choses pas faciles. Et j'imagine qu'il faut que je le lui rende. Je ne peux pas la laisser pendant que tout le monde quitte Paris. Moi, j'ai envie de rester et de veiller sur elle. Elle a besoin de ça. Je ne la quitterai pas, je ne lâcherai pas Paris. Pour rien au monde, j'ai envie qu'on continue cette histoire forte qu'on a, elle et moi, éternelle. Et puis Paris, elle a des traces. Il y a plein d'artistes qui sont passés avant moi. Et c'est aussi je pourrais lui parler comme on parle à un amoureux ou on a une vraie relation et quand je raconte que par moment j'ai été déçue, mais on est aussi déçue de celui qu'on aime éternellement, par moment, et j'ai cette relation avec Paris.
Je dois vous avouer quelque chose, j'aime les robes à fleurs sous la pluie de novembre.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma tendre. t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin.
Jardin d'hiver, Kerenan, c'est dimanche et vous êtes, et oui, vous êtes bien sur RMC Gold.
RMC Gold.
Paroles et musique.
Je ferme un bouton de ma chemise, là, je serre la cravate, parce que là, Kerenan, on touche au sublime, dans la musique et dans les textes. Est-ce que vous avez conscience de la grandeur de cette chanson que vous avez écrite ?
Je sais ce que pour moi, la terminer, en tout cas quand j'ai fini de l'écrire, je me suis dit... Je ne sais pas si c'est le mot grandeur ou parce qu'on a du mal pendant qu'on est justement ce que je disais tout à l'heure de savoir. Mais en tout cas, je sais que j'ai dit exactement ce que j'avais envie de dire. J'ai été précise et juste par rapport à ce que je voulais raconter dans cette chanson. Et ça, c'est une sensation extraordinaire quand
c'est,
on.
C'est pas fréquent hein, quand
en fait,
on écrit.
Quand on écrit, finalement, c'est quoi écrire ? C'est donner une forme physique à quelque chose qu'on ressent. Donc, on choisit des mots, on choisit des notes, on choisit des harmonies. Et c'est cet ensemble qui doit être précis. Et là, en tous les cas, pour moi, elle est vraiment précise à ce que j'avais envie de raconter. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que je peux dire, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. Voilà où j'en suis là, à ce moment-là, ici, maintenant. Et c'est une sensation très agréable.
Quelle aventure que cette chanson, quand même, parce que vous l'avez déjà racontée, bien sûr, mais j'ai envie de l'écouter. Et nos auditeurs et auditrices ont envie de l'écouter. Parce que cette chanson et l'album qui a suivi, que vous avez écrit avec Benjamin Biolay, ont pu permettre le dernier tour de piste de cet immense chanteur qui était Henri Salvador. Comment ça s'est passé ?
Cette chanson, c'était vraiment un moment. Déjà, il y avait le décalage entre... à l'époque, quand on l'a écrit avec Benjamin Biolay, on était très très jeunes tous les deux, et Henri Salvador avait 83 ans, et il fallait écrire une chanson qui était un peu là où on se rencontre, là où il y a quelque chose de valable quand on est très très jeune, et quelque chose qui est valable presque plus tard dans la carrière, vraiment quand on a presque pensé laisser tomber la carrière et on arrive et il y a un moment saisi, un moment amoureux, un moment qu'on raconte et dont on est témoin. Et en effet, cette chanson Jardin d'hiver, elle raconte avec précision cette sensation. Et ça, c'est génial dans une chanson, c'est comme ça qu'elle devient intemporelle.
Allez, pour le plaisir, quelques secondes d'Henri Salvador.
Un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige, des phares, des lumières. De toi et moi avant l'hiver.
En écoutant ce petit extrait de Tour de manège, écrit et composé par vous, je me dis qu'elle est totalement intemporelle. C'est-à-dire, si on tient la musique et les paroles, elles sont intemporelles. C'est-à-dire que vous auriez pu l'écrire hier soir, en fait.
Et je pense que je pourrais la chanter dans 20 ans, j'espère, avoir l'occasion de la chanter sur scène dans 20 ans, parce que je compte être encore sur scène dans 20 ans.
Ah voilà. Et j'espère que vous interviewez encore, Caroline.
Et en fait, je me dis qu'elle aura autant de sens que quand je l'avais écrite, il y a 25 ans. Et en fait, c'est ça qui est génial avec le songwriting, c'est qu'on veut saisir des moments qui ressemblent à qui on est, mais qui pourraient ressembler à qui on est plus tard. C'est pour ça que je le redis, le temps est une syntaxe. le temps, c'est vraiment ça, c'est que c'est subjectif, c'est ce qu'on en fait.
Question idiote, et j'adore les questions idiotes, que préférez-vous, écrire les paroles ou la musique ?
pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre. Alors, il m'arrive d'écrire que des paroles quand on m'envoie une musique pour quelqu'un ou juste une musique quand on m'envoie un texte. C'est très, très rare et je peux y prendre plaisir, mais il n'est en aucun cas le plaisir que je prends dans le processus d'écriture, justement, d'un dialogue entre les paroles et les musiques. Parce que ça peut être une phrase qui déclenche un thème, ça peut être une progression d'harmonie qui déclenche des mots, ça peut être des rimes qui vont avec tel accord, mais pas avec un autre. Et en fait, à la fin, c'est quoi? C'est ce mot avec cette note, sur cette harmonie, avec cet arrangement. C'est un ensemble de choses qui font que l'émotion est juste. Et c'est pour ça que j'aime tant cette expression, en fait, d'écriture de chansons.
Donc, une note peut donner un mot et un mot peut donner une note.
Tout à fait.
C'est pas...
Absolument.
Parce qu'il y a cette réflexion culturelle qui dit souvent qu'en France, on écrit d'abord les textes et après la musique. Et puis, l'influence anglo-saxonne, c'est plutôt la musique et puis les textes
non,
derrière.
Non, en fait, je pense que c'est du bullshit. En fait, je pense qu'on a... Ça peut être l'un ou l'autre et ça va ensemble. Après, je connais, il y a des grandes chansons françaises qui ont été écrites où le compositeur a reçu un texte, où l'auteur a reçu une composition. C'est pas le même travail et je le fais et je l'adore et je le respecte et je suis très honorée à chaque fois quand on vient vers moi pour quelque chose comme ça. Mais pour moi, l'écriture complète des deux, même quand on travaillait à quatre mains avec Benjamin il y a longtemps ou quand ça m'arrive parfois avec Dorian ou d'autres gens, pour d'autres artistes, il y a un ping-pong entre les mots et les musiques. Il faut qu'on soit dans la même pièce pendant tout le processus d'écriture parce que c'est codépendant, en fait, les mots et la musique.
C'est l'avantage de cette émission. On ne sait jamais trop où l'on va.
This is why wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper when vagabonds are passing by. I tend to keep myself away from their goodbye. Tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. I am not going anywhere. People come and go and walk away, but I am not going anywhere. I am not going anywhere. This is why I always whisper. I'm a river with a spell. I like to hear but not to listen. Like to say but not to tell. This is why I always wonder. There's nothing new under the sun. I won't go anywhere, so give my love. Tide will rise and fall along the bay. I'm not.
Not Going Anywhere. Karenan, vous êtes sur RMC Gold et on se retrouve tout de suite.
RMC Gold, paroles et musique. Fred Hermel.
Nous sommes toujours avec Karenan et c'est le moment du questionnaire de Fred. Qu'est-ce qu'un dimanche réussi pour vous ?
Un très bon livre, un très bon café, ma fille qui se réveille de sa grasse matinée, mon chat, Paris.
Qu'est-ce que vous aimez manger le dimanche ?
Alors, c'est vrai que ça dépend. C'est soit le dimanche, il y a aussi, faut pas oublier qu'il y a aussi le marché. Mais à Paris, il y a de plus en plus le marché le vendredi aussi et parfois le samedi. Donc parfois, on a déjà tout ce qu'il faut. Mais si on fait le marché, en général, ça serait du poisson et plein de bonnes choses qu'on a pris au marché. Peut-être le dimanche, on a plus de temps, donc on peut faire un bon pain aussi.
Que faites-vous contre le blues du dimanche soir ? Si vous l'avez, hein, parce que ce n'est pas obligatoire. Hein.
Non, c'est possible que je l'ai, ça dépend de la période. Mais en général, je trouve qu'en tant que maman, le blues du dimanche soir, il est tellement axé à ne pas faire ressentir à nos enfants le blues du dimanche soir, que même si on commence à... Si tout est prêt, et que le cartable est prêt, et qu'on a le temps de regarder un film et d'en faire quelque chose de plutôt agréable, j'aime bien, oui.
Écoutez-vous de la musique le dimanche ?
Bien sûr. J'écoute, alors ça dépend des dimanches, mais ça peut être du Dvorak, comme ça peut être, je dirais, des playlists avec les grands classiques, ou récemment avec ma fille qui découvre un peu son répertoire, donc elle a fait des playlists, et ça va de Stevie Wonder à William Scheller, en passant par Véronique Sanson, et puis parfois du Schubert. Donc en ce moment, c'est des playlists de ma fille le dimanche.
Quelle chanson des années 80-90 vous plaît particulièrement et pourquoi ?
Alors, je dirais que si je dois choisir une chanson très 80 qui, pour moi, a changé des choses d'un point de vue sonore, ça serait White Wedding de Billy Idol. Je me souviens de la pochette, de son attitude et du son.
White Wedding, Billy Idol. C'est dimanche et vous êtes sur RMC Gold.
RMC Gold.
Paroles et musique.
Nous sommes toujours avec Kerenan. Vous aimez aussi quand ça bouge, hein, parce que quand on écoute vos chansons, on se dit, bon, Kerenan, c'est calme et tout ça, c'est chill, comme disent les gens aujourd'hui. Mais non, non, vous aimez aussi le rock.
Bien sûr, et puis sur
la
scène,
pop
on le sent, les
ça.
Gens qui viennent me voir sur scène, souvent, ils savent que je vais sortir les guitares électriques, je vais, bien sûr.
Alors, vous êtes polyglotte, ça c'est un cadeau du ciel. Hein. Franchement, vous parlez parfaitement le français, l'anglais, l'hébreu, le néerlandais. Vous venez de plusieurs cultures différentes. Qu'est-ce que chacune apporte à votre vie, à votre œuvre ? Alors rapidement, si je vous dis la langue française, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? La langue anglaise, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Voilà, c'est...
Alors la langue française, c'est l'amour de ma vie, parce que je ne l'ai pas appris jeune, je l'ai appris plus tard, enfin en tant qu'adolescente, et j'ai choisi de m'exprimer dans cette langue que je ne parlais pas parfaitement. Je pense que je ne parle toujours pas parfaitement le français. Qui parle parfaitement le français ?
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui,
oui, mais encore moins quand on a été un peu, quand on a été élevé dans plusieurs langues. Je considère qu'elle est vraiment, vraiment immortelle et sans fin, cette langue. Et j'ai un amour profond. En fait, c'est marrant parce que quand je suis arrivée en France, j'étais plus à l'aise avec des auteurs qui n'étaient pas français d'origine ou des poètes qui n'étaient pas français d'origine, comme Gerasim Louka, qui était, à travers son écriture et sa poésie, très fasciné par la langue française. Il l'a maniée d'une manière où il a cassé des codes et ça m'a décomplexée. Parce que quand j'ai commencé à écrire en français, je travaillais avec des dictionnaires. Et c'est peut-être ça qui a créé un peu une syntaxe qui venait d'ailleurs, mais ça m'a aussi permis de me sentir... En fait, c'est comme ça que je me suis permis d'appartenir à la langue française.
Et vous étiez la bienvenue, hein, je vous rassure.
Oh, c'est gentil, mais en tout cas, Emma.
Et l'anglais, alors maintenant, l'anglais,
alors, qu'est-ce que
c'est une langue émotionnelle. Parce que vous avez fait notamment un album qu'en
plusieurs,
anglais.
Oui, plusieurs, oui.
Qu'en anglais, il n'y a pas un mot français. Hein.
Oui, oui, ça existe aussi, parce que c'est la langue émotionnelle, puisque chez moi, on parlait beaucoup anglais, mes parents communiquaient un peu en anglais, cassé, mais anglais. J'étais à l'école aux Pays-Bas en anglais. Je parle anglais avec ma fille, qui, elle, est totalement francophone. Et elle va à l'école en français. Et c'était juste pour lui donner cette flexibilité de pouvoir. Mais en tout cas, j'aime cette langue parce que pendant des années, c'était la langue qui me permettait de communiquer quand on déménageait d'un pays à l'autre. Et ça me permettait justement de me sentir... Parce que de toute manière, on se sent toujours un peu invité et partout... Et puis on n'ose pas, mais l'anglais me permettait de me sentir à l'aise, en tout cas.
C'est une clé pour ouvrir plein de portes.
C'est une clé pour ouvrir plein de portes. Voilà, il y avait plein de traductions qui existaient d'abord en anglais avant d'exister en français parfois, surtout d'auteurs d'Amérique du Sud à certains moments. Alors que je pense que c'est beaucoup mieux de lire des traductions en français. Mais quand j'étais plus jeune, je n'avais pas forcément accès. Et donc l'anglais, oui, c'est émotionnel. L'hébreu, c'est quelque chose que mon père, il tenait. Il m'a
vous
toujours
êtes bien
parlé.
Oui,
et puis il tenait à ce que je parle hébreu, que je porte cette langue. Et c'est extraordinaire parce qu'il est mort il y a 15 ans, mais c'est resté parce que j'ai continué à travers la littérature et la poésie de vraiment m'attacher et m'accrocher à cette langue que j'aime énormément, où il y a aussi, elle est historique, et puis à travers ça, beaucoup l'arabe aussi, que je trouve magnifique, l'arabe, mon père parlait arabe aussi, et c'est une langue que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup, beaucoup communiquer, mais je la trouve toujours très, très belle. C'est une langue qui dans, en tout cas, la manière dont je l'ai connue, en Israël, et elle existe très très fort en Israël, elle est très très belle, elle est très littéraire, et puis même dans les slangs israéliens, elle existe. Le néerlandais, j'avoue, un peu moins, parce que c'est une langue qui est difficile à imaginer en musique, et puis c'est une langue avec laquelle j'ai un rapport un peu... c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont liées à la maternité, parce que c'est la langue de ma mère.
Et vous avez vécu aux Pays-Bas, hein ?
Oui, j'ai vécu aux Pays-Bas, mais c'est aussi un rejet parce qu'elle n'a jamais marché avec le rock'n'roll. Donc j'ai un rapport un peu bizarre avec le néerlandais que je retrouve et quand j'y vais, j'adore avoir des conversations. Mais parfois j'ai des blocages, j'ai quelque chose que je n'ai jamais... Par exemple, je ne lirai pas la littérature en néerlandais. Je lis en français, en anglais, en hébreu, rarement, mais plutôt en français, en anglais, mais je n'aurai pas cette... J'ai pas encore réussi à trouver de la poésie en néerlandais qui, pour moi, a une sonorité, un rythme dans lequel je me sens, auquel je me sens appartenir, ou à laquelle je me sens appartenir. C'est quelque chose encore un peu étranger pour moi.
Bon, il faudra partir quand même, mais pas tout de suite. dire quand même, Françoise Hardy, c'est dimanche et vous êtes sur RMC Gold.
RMC Gold.
Paroles et musique.
Ah, cette chanson, j'étais au lycée et je l'écoutais tout le temps. Vous l'adorez, hein, Françoise Hardy.
Françoise, c'est vraiment, enfin, déjà, ses chansons, enfin, ses albums, La Question et Soleil, et c'est des albums qui ont énormément marqué le son et l'amour de l'écriture pour moi. Mais pour moi, c'est surtout la chance de l'avoir eue comme amie pendant des années. On n'a pratiquement pas travaillé ensemble, ce n'était pas l'intérêt, mais l'amitié que j'ai eue, qu'elle m'a offerte, jusqu'à la fin, c'est quelque chose que je porte vraiment encore. Je ne m'y suis pas encore fait, pour moi, elle est encore là. Il y a quelque chose qui n'est pas encore acté dans le fait qu'elle, parce que c'est, voilà, c'est une chère amie, Françoise. Pour moi.
Il arrive qu'on associe votre œuvre à la sienne. C'est vrai qu'on est un peu quand même dans le même univers musical, dans la même démarche, je veux dire. Oui.
Bah en tout cas, j'étais très très inspirée de son œuvre. Mmh. Et puis, j'ai toujours aimé. On n'a pas du tout le même rapport à l'amour et à soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas les mêmes amoureuses du tout. On est tous les deux des grandes amoureuses, mais pas du tout de la même manière.
C'est-à-dire.
Elle a quelque chose de très très unique, éternel et espérance dans l'amour, alors que moi je suis quelqu'un qui a fait 25 ans de psychanalyse, que je n'attends rien de... En fait j'aime beaucoup, je sens que j'ai été bénie en amour, même la tristesse ou le cœur brisé, il se transforme en quelque chose qui pour moi était un trajectoire obligatoire dans ma vie et que c'était un bout de chemin très très important et on n'est pas obligé d'avoir un seul amour dans toute une vie, on peut en avoir plusieurs qui comptent et qui ont... Et puis, j'ai un rapport aussi... j'ai grandi avec une boîte d'outils un peu talmudique, mais ça a toujours été, pour moi, une boîte d'outils qui a toujours été à chercher le solaire et cette, en fait, les fissures de lumière, comme on dit, plutôt que exprimer la noirceur. Mais après, je trouve qu'elle a réussi de le faire avec énormément de tendresse et de beauté, son amour éternel. C'est pour ça qu'on est autant d'avoir été touchés par cette déception amoureuse, d'une certaine manière. Alors que moi, ma déception amoureuse dans les chansons, elle se transforme en quelque chose de très, très fort et au contraire, qui fait que j'aime... ma place, parce que dans mes chansons, on retrouve que c'est la femme qui fait l'homme. J'ai toujours pensé ça. Et chez Françoise, il y a peut-être une autre forme d'amoureuse qui est très très belle aussi, cette femme amoureuse. C'est un peu comme ma mère était amoureuse. Un peu. Enfin, c'est un peu une autre génération, c'est l'amoureuse d'une autre génération.
Oui, mais en Françoise, tout cas, elle souffrait plus que vous peut-être alors.
Je ne sais pas si qu'elle souffrait plus, mais en tout cas, son rapport à la manière dont elle voulait laisser la trace, elle était liée à la mélancolie autrement. Mais peut-être plus forte, mais je m'y reconnais aussi. Hein. C'est quelque chose de laquelle j'ai grandi. Et voilà, une artiste importante dans ma vie.
Je sais que vous avez beaucoup aimé Cure aussi. Allez, un tout petit plaisir maintenant là. The Cure, mais quelle créativité dans ces années-là.
Quelle écriture, quelle poésie.
Ah oui, c'est... Ah, il y avait vraiment quelque chose dans les années 80-90.
En fait, en tout cas, il y a eu entre The Cure et aussi Talking Heads et des groupes vraiment de rock qui apportaient une sonorité assez devant et assez... mais avec une poésie incroyable. Jamais on mettait de côté l'importance de l'écriture, de la poésie. Et ça fait des œuvres extraordinaires, oui.
Je vous promets que je suis bien avec vous, Kerenan, mais j'aime aussi la solitude, surtout quand elle est sublime.
Je sais que mes mains qui ne cherchent d'habitude que l'ivoire et l'ébène d'un piano de salon, que la peau de mes doigts racornis durcis par des cordes usagées de bronze et de nylon font de moi une pierre, une folle cavalière qui n'est que passagère. Je sais que mes yeux ne cachent plus la blessure des longtemps enterrés au fond de mes bagages, et que sur le terrain nul ne paraît très sûr, ni la vue imprenable, ni le parfum sauvage de la haute altitude et son allié absurde, la sublime solitude. Je sais que ton cœur, tant brisé par une autre, est venu rechercher un peu de réconfort. N'en déplaise la rumeur sur le pas de ma porte, sans même l'ombre d'un doute, tu as viré de bord. Tu as poussé offshore, je m'en souviens encore, jusqu'au fond de l'impasse, tous ces hommes pleins d'audace qui me parlent à voix basse, mais qui souvent, hélas, me laissent de glace. Je suis bien peu de choses, qu'il me reste le reste d'une foutue promesse, que l'amour sans lendemain tu en as eu ta dose, que le bonheur, la joie tu les fuis de justesse, pour ce vieil interlude, cette affreuse habitude, cette divine plénitude, la sublime solitude.
La sublime solitude, Kerenan. Mais qu'est-ce qu'on est bien sur RMC Gold.
RMC Gold.
Parole et musique.
La sublime solitude qui est un extrait de votre nouvel album qui s'appelle Paris Amour. Franchement, je recommande à tout le monde parce que c'est un très 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 beau travail. Puis c'est un beau thème aussi, la solitude. On se souvient Barbara Moustaki, un temps d'immense, l'artiste ont chanté. Mais vous avez réussi à trouver quelque chose aussi là, de nouveau raconter sur la solitude. Alors ça, c'est ma question préférée que je pose à tous les invités. Elle arrive à la fin. Qu'est-ce que la célèbre artiste que vous êtes devenue aujourd'hui aurait envie de dire à la petite Kerenan Zeidel, qui est votre nom, qui est née en Terre Sainte et qui a passé son enfance aux Pays-Bas?
Alors, je lui aurais dit de toujours, j'ai décidé de faire la musique très tôt. Et donc, à ce moment-là, je lui aurais dit, tout métier artistique ou tout ce que tu as besoin d'exprimer ou de dire, ou de, que ce soit en musique ou en dessin ou quoi, dis juste la vérité tout le temps. Quand tu cherches ton son, quand tu cherches ton identité artistique, dis juste des choses que tu sais, parle de ce dont tu sais, des émotions que tu as vécues. Il n'y a que ça qui compte. Parce qu'en fait, je pense que ce qui a fait que j'aime toujours autant ce que je fais, c'est que j'ai toujours raconté ma vérité, la vérité. J'étais authentique avec ce que j'apportais d'un point de vue sonore et d'un point de vue écriture. Et ça, il ne faut pas l'échanger pour rien. Et donc, je dirais exactement ce qu'elle a fait finalement, mais d'en être sûr, de ne pas se poser des questions par rapport à ça, parce qu'il n'y a que ça qui compte.
Merci beaucoup, Kerenan. Merci. C'est un vrai bonheur de vous accueillir dans Parole et Musique.
Merci à vous pour cette invitation.
Sur RMC Gold. On est bien quand même sur RMC Gold, il faut le dire. On se retrouve dimanche prochain. Cette émission est aussi à écouter et réécouter en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement. Et l'on se quitte avec ma chanson préférée de votre longue et belle discographie.
RMC Gold.
Paroles et musique.